Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 19h.
Europe Soir. Raphaël Delvolvé.
Bonsoir à tous. Après des jours d'hésitation allemande et de pression ukrainienne, Berlin et les États-Unis décident finalement d'envoyer des chars lourds à l'Ukraine, au moins une cinquantaine. Les Occidentaux disent ne pas vouloir l'escalade, mais la Russie parle d'une décision dangereuse. Appelez-nous au 3921. Vos réactions, vos questions sont les bienvenues, car nous en parlons après 19h20 avec le général Vincent Desportes et dès maintenant dans le journal d'Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous. Des livraisons d'armes en cascade donc pour l'Ukraine. Les États-Unis annoncent l'envoi de 31 chars. Un peu plus tôt, l'Allemagne avait décidé également l'envoi de chars Léopard. D'autres pays européens vont en faire autant. Quid de la France ? Rien n'est exclu, selon Elisabeth Borne. Les syndicats font monter la pression avant la journée d'action du 31 janvier. Ils appellent tous les Français à se mobiliser contre la réforme des retraites. Dans ce journal, payer son loyer au bureau de tabac, c'est maintenant possible. La condamnation pour corruption de mineurs et la démission de Bruno Martini, qui présidait la Ligue de handball. Et puis, quart de finale du Mondial de hand France-Allemagne. Ce sera à 20h30 et nous serons en direct de Gdansk, en Pologne.
Et puis après 19h40, cette question, la confiance est-elle revenue dans le secteur des EHPAD ? Nous sommes un an après les révélations du scandale Orpea. Éric Fragona de l'Association des directeurs au service des personnes âgées nous répondra, téléphonez-nous pour en parler au 3921, le standard d'Europe 1 est ouvert. La tendance météo, bonsoir Valérie Darmon.
Bonsoir Raphaël, bonsoir à tous. Prudence dans le nord-ouest, au passage pluvieux, neigeux sur le nord-ouest la nuit prochaine et demain matin surtout. Il neigera jusque sur Paris et attention au verglas dans les Ardennes, jusque sur les Hauts-de-France.
Merci Valérie, à tout à l'heure. Journée importante pour Volodymyr Zelensky. Plusieurs pays vont accéder à sa demande d'armement lourd et d'abord l'Allemagne.
Nous allons fournir à l'Ukraine des chars de combat Léopard 2.
Un feu vert donné donc par le chancelier Olaf Scholz pour envoyer à Kiev 14 chars Léopard. Et ce soir, Johann Tritt, c'est au tour des États-Unis d'annoncer une prochaine livraison.
Oui, annonce à l'instant de Joe Biden qui a pris la parole depuis la Maison-Blanche il y a quelques minutes.
Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis enverront 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Nous avons pris cette décision car elle va renforcer la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques.
Cela prendra du temps, a-t-il ajouté. Une décision prise après discussion avec les principaux pays de l'OTAN. Le président américain qui a aussi assuré que cette livraison de chars à l'Ukraine n'était pas une menace offensive contre la Russie. Des propos prudents, hein, comme ceux du chancelier allemand Olaf Scholz quelques heures plus tôt. Berlin s'est engagé à envoyer 14 chars Léopard dans les 3 mois. Des tanks lourds et modernes issus des stocks de l'armée. Une livraison de matériel militaire qui n'est pas anodine. Hein. Ce sera la première fois que des chars de combat allemands se battent sur un champ de bataille depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, devant les parlementaires, le chancelier a mesuré ses mots.
Nous faisons ce qui est nécessaire et ce qui est possible pour soutenir l'Ukraine, mais nous empêchons en même temps une escalade de la guerre entre la Russie et l'OTAN et nous continuerons toujours à observer ce principe.
Des annonces saluées par Volodymyr Zelensky, une étape importante pour la victoire finale, a-t-il dit. Le président ukrainien, insistant depuis des mois, espère 200 chars pour remplacer son matériel vieillissant. Son appel, en tout cas, a été entendu par les États-Unis, on vient de l'entendre. L'Espagne aussi s'est dite disposée à envoyer des chars Léopard à Kiev. La Pologne s'était déjà placée et va bientôt le faire. La Norvège, à l'instant, et même la Suisse, hein, traditionnellement neutre, réfléchit à se joindre à l'effort. S'ajoute à ça le Royaume-Uni qui avait déjà promis la livraison de 14 chars d'assaut Challenger 2 quelques jours plus tôt.
Et la Russie, Johann, comment est-ce qu'elle réagit à la décision allemande ?
Et la Russie a évidemment tout de suite répliqué. L'ambassadeur russe en Allemagne, Sergueï Netchaïev, a déploré une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. Et le porte-parole russe, hein, Dmitri Peskov, lui a été encore plus loin. « Nous brûlerons tous les chars occidentaux », a-t-il menacé. C'est sans doute un nouveau tournant dans ce conflit.
Johann Tritt, et ce soir l'Elysée se félicite du feu vert allemand à l'envoi de ses chars Léopard qui, selon le communiqué, prolonge et amplifie le soutien en armement engagé par la France. Interrogée devant le Sénat sur une éventuelle livraison de Charles Leclerc, Elisabeth Borne a plutôt botté en touche.
Nous entendons les demandes du président et du gouvernement ukrainien. Rien n'est exclu et nous sommes mobilisés pour les soutenir dans la durée. Pour notre aide militaire, nous voulons respecter trois principes. Le premier, comme l'a indiqué le président de la République, c'est que notre aide ne doit pas provoquer d'escalade. Personne n'y aurait à gagner, et surtout pas l'Ukraine. Le second, c'est que notre aide doit être utile et efficace rapidement. Enfin, nous ne devons pas et nous ne voulons pas affaiblir significativement nos propres capacités de défense, en particulier les plus critiques. S'agissant des chars Leclerc, nous poursuivons l'analyse avec le ministre des Armées. La question de l'aide à l'Ukraine ne se limite pas à tel ou tel équipement. Chaque pays dispose de domaines d'excellence, comme la défense aérienne et l'artillerie pour la France, et il est important de bien nous coordonner.
La Première ministre au Sénat qui estime donc que pour l'instant, rien n'est exclu.
Et nous continuerons d'en parler vers 19h20 avec notre invité, le général Vincent Desportes. Vous pouvez réagir, poser vos questions à l'antenne. Appelez-nous au 3921.
Un bon chiffre pour le chômage au quatrième et dernier trimestre 2022. Selon ces chiffres du ministère du Travail, la baisse est significative, moins 3,6%, 114 000 chômeurs de moins.
Pendant ce temps, les syndicats préparent leur nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites la semaine prochaine.
Oui, les chefs de file des 8 principaux syndicats étaient reçus par la commission des affaires sociales de l'Assemblée cet après-midi. Ils veulent que la contestation monte d'un cran le 31 janvier, Barthélémy Philippe.
Oui, l'objectif, c'est de ne surtout pas laisser la mobilisation s'essouffler après le succès du 19 janvier. Et les syndicats y croient dur comme fer, c'est le message de Philippe Martinez, le patron de la CGT.
Fais attention maintenant parce que comme le 19, je me suis trompé, j'avais dit 1, il y en a eu 2 millions. Non, l'objectif, sérieusement, c'est de faire aussi bien, voire plus. Et je vous le dis, beaucoup de personnes que l'on croise ont été surpris par le niveau de mobilisation et ça a donné confiance. Et beaucoup nous déclarent, bon, on sera là le 31.
Pour réussir leur pari, les syndicats doivent impérativement rester unis. Mais quelques désaccords commencent à apparaître, comme l'admet Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT.
Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays découvre qu'on n'est pas toujours d'accord entre la CGT et la CFDT ? Non. Qu'on n'a pas toujours les mêmes modalités d'action ? Non. Pour autant, là, on est unis pour dire qu'on ne veut pas des 64 ans. La CFDT, elle ne cautionne pas les coupures de courant. Elle n'est pas pour appeler à la grève reconductible dans différents secteurs professionnels. Le durcissement à tout craint, c'est perdre une partie de l'opinion. Donc nous, on veut durcir sur les propositions. Et donc c'est ça qui est aujourd'hui en jeu, c'est de réussir le 31 janvier.
Et on l'a bien compris, l'enjeu pour les syndicats, c'est de conserver le soutien des Français.
Barthélémy Philippe, à la gare de l'Est, où le trafic a été paralysé hier à cause d'un acte de sabotage, ça s'est bien amélioré au cours de la journée avec 3 TGV sur 4. Et pour demain matin, la SNCF annonce un retour à la normale. Côté enquête, le parquet de Meaux précise qu'un portillon a été ouvert sans aucune trace d'effraction. Les auteurs du sabotage ont ensuite pu accéder à la trappe où se trouvaient les coffres abritant les câbles électriques.
Payer son loyer en même temps qu'on achète ses timbres ou ses cigarettes au bureau de tabac, c'est désormais possible.
Oui, et c'est la Française des Jeux qui est à l'origine de cette initiative. On paie grâce à un smartphone dans les bars tabac agréés. Alors d'abord, Inès Zegloul, qui est concernée ?
Alors pour le moment, ce sont 150 000 foyers un peu partout en France, les locataires de 4 grands bailleurs sociaux, Sequence Action Groupe Logement, Dynacité Logement, Côte d'Azur Habitat et Limoges Habitat. C'est assez simple, concrètement, vous téléchargez l'application Nirio sur votre smartphone, vous scannez la facture et vous aurez directement un QR code à montrer au buraliste, sans oublier une pièce d'identité. Et une fois vérifié, le règlement peut se faire en espèces ou par carte bancaire. L'idée, rassurer les plus frileux du prélèvement automatique selon Philippe Alloz, secrétaire général de la Fédération des buralistes d'Île-de-France.
On estime à peu près 20% de la population française qui n'a pas déjà toute cette facilité avec le numérique. Il y a des gens qui veulent aussi recréer du lien, retrouver un acteur en face d'eux. Ça se matérialise par un commerce de proximité.
À noter qu'il est aussi possible, selon le bailleur, de fractionner le paiement. Une solution qui donne des idées. Buralistes et Françaises des Jeux envisagent d'aller encore plus loin.
Au comptoir d'un bureau de tabac, avec l'appli Nirio, ils pourront dans deuxième temps peut-être payer leur note d'électricité, leur note de gaz, payer peut-être une location de voiture et surtout n'oubliez pas de payer le petit café au commerçant qui vous a présenté tous ses services.
Et si vous ne le saviez pas encore, vous pouvez d'ores et déjà régler vos amendes et payer vos impôts en buvant ce petit café au bureau de tabac le plus proche.
Donc le nouveau système s'appelle NIRIO. Merci Inès Zegloul. Une femme de 32 ans poignardée dans les locaux de l'université Paris-Cité dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. Son pronostic vital n'est plus engagé. L'agresseur a été arrêté et placé en garde à vue.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. 19h10, restez avec nous. Dans quelques instants, la démission du président de la Ligue de handball, Bruno Martini, condamné pour corruption de mineurs. A tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Et maintenant, parlons énergie des territoires avec Antargaz.
Bonjour Franck Tilly, vous êtes responsable délégation service public chez Antargaz. Alors à ce propos, 25 000 communes en France ne sont toujours pas raccordées au réseau public de gaz naturel. Que propose Antargaz à ces communes ?
Alors depuis 2003, Antargaz a obtenu son agrément d'opérateur de distribution publique de gaz, ce qui nous permet aujourd'hui d'alimenter 180 communes en gaz propane, qui va permettre aux 180 communes raccordées et aux 7 000 usagers de couvrir tous leurs besoins courants en énergie et de bénéficier des tarifs en cadresse sous délégation de service public et d'une écoute de nos équipes commerciales qui sont là pour répondre à l'ensemble des questions des usagers.
Et alors à terme, cette énergie pourra être renouvelable à 100%, c'est bien ça ?
Tout à fait. Le biopropane va apparaître dans nos réseaux progressivement et ça sans avoir à modifier les installations de nos usagers. Et donc grâce au biopropane fourni par Antargaz, les communes pourront réduire leur empreinte carbone.
Merci Franck Tilly, à bientôt.
Merci et à la semaine prochaine pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économie là.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle de la crème riche premier cru, véritable avancée scientifique anti-âge.
La crème riche premier cru associe une technologie co-brevetée avec Harvard à des céramides biotech pour réparer la barrière de la peau et corriger les 8 signes de l'âge. Rides, ridules, taches, éclats, élasticité, fermeté, nutrition et volume.
La crème riche premier cru de Caudalie, disponible en packaging rechargeable, en pharmacie, parapharmacie et sur caudalie.com.
Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.
19h12, la suite du journal d'Hélène Zélani. Le sport français de nouveau éclaboussé par une affaire sordide.
Oui, l'ancien international de handball Bruno Martini vient d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Ce soir, Cyril de la Morinerie, il démissionne de son poste de président de la Ligue de Hand.
Oui, la pression était trop forte. Bruno Martini a donc démissionné ce soir, comme l'exigeait à la fois la Fédération française de handball, mais surtout la Ligue, dont il était le président. Une assemblée élective est d'ores et déjà prévue le 7 mars prochain. Interpellé lundi, puis mis en garde à vue, le dirigeant de 52 ans a bénéficié d'une procédure accélérée sur le mode du plaidé coupable. Sans cela, la peine encourue était de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Le légendaire gardien de l'équipe de France de handball faisait l'objet d'une plainte d'un adolescent de 13 ans depuis l'été 2020. Il avait échangé des selfies et vidéos à caractère sexuel via le réseau social Snapchat sous le pseudo Daddy. En garde à vue, Bruno Martini assurait qu'il pensait que l'adolescent avait plus de 15 ans. La justice l'a également condamné à une interdiction d'exercer une activité impliquant un contact avec des mineurs pendant 5 ans. Bruno Martini, colosse de près de 2 mètres, avait décroché le premier titre des champion du monde de l'équipe de France de handball en 1995. Il faisait partie de la fameuse bande des Barjots. Avant de devenir dirigeant, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s'est dite très émue et profondément choquée, apportant tout son soutien au jeune garçon et à sa famille.
Cyril de la Morinerie. Le hand, le vrai sur le terrain, c'est ce soir au Mondial en Pologne. La France affronte l'Allemagne pour une place en demi-finale. Martin Lange, vous êtes en direct de Gdansk où le coup d'envoi sera donné à 20h30.
Oui Hélène, et il y a déjà un match ici à Gdansk, hein, vous entendez peut-être l'ambiance derrière moi. D'ailleurs c'est les Norvégiens qui viennent de marquer un match, premier quart de finale entre l'Espagne et la Norvège, et c'est la Norvège qui mène d'un petit but. Les Bleus eux viennent d'arriver dans la Ergo Arena, cette salle de 11 000 places qui accueille ces quarts de finale, une salle qui est loin d'être pleine. Oui, l'hôte polonais n'est plus en course et qui sera surtout acquise aux Allemands ce soir. Pourtant en cherchant bien, j'ai réussi à trouver quelques supporters français. Ils sont assis juste en face de moi et il y a notamment Jacques et ses acolytes.
Nous sommes l'équipe de vieux joueurs de handball de la région de Carcassonne et de Toulouse. Et nous sommes venus encore une fois parce que nous suivons l'équipe de France tous les ans, depuis 8 ans, et nous allons à tous les championnats. Donc s'il avait fallu aller sur la Lune, je crois qu'on aurait trouvé un moyen d'y aller.
Jacques et sa troupe sont arrivés ce matin et ils espèrent faire durer le plaisir. Pour ça, il faut que les Bleus battent les Allemands, un adversaire a priori à leur portée. Mais méfiance tout de même, la jeune garde allemande a du talent à revendre. Coup d'envoi de ce quart de finale, Hélène, dans un peu plus d'une heure désormais.
Quelle ambiance! Martin Lange, envoyé spécial d'Europe 1 en Pologne, et vous nous ferez vivre cette rencontre en direct et donc en intégralité dans Europe 1 Sport.
Suspense d'un autre genre, les Césars du cinéma français, ils seront décernés le 24 février.
Et la liste des nominations a été dévoilée aujourd'hui. On va la regarder de plus près avec vous, Marie Jiquel. D'abord, un record de nominations pour le film 2 et avec Louis Garrel, L'Innocent.
Oui, 11 nominations pour cette comédie bien rythmée, racontant le cambriolage très amateur d'une famille recomposée avec Roche Dizem, Anouk Grimbert et donc Louis Garrel en fils, sans surprise Hélène Ronchon.
T'es sorti quand déjà de prison ?
Il y a une semaine.
Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? C'est plus une prison, c'est un club de rencontres.
Je suis ta mère quand même !
Je m'en fous, t'es complètement folle !
Alors vas-y, c'est quoi cette fois-ci ? C'est le smartphone ?
Du caviar.
3000 euros le kilo ?
Attends, tu appelles tout de suite et tu dis oui ! En plus, vous faites ça en famille !
Louis Garrel avait déjà reçu le César du meilleur espoir. Cette année, il est en lice pour le meilleur acteur, meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur film, entre autres.
Marie, la sélection de cette 48e cérémonie ne fait pourtant pas que des heureux. Et il y a même quelques mauvaises surprises.
Et oui, notamment l'absence d'Elsa Silberstein dans la catégorie meilleure actrice pour son incarnation de Simone Veil, un rôle prédestiné aux récompenses. Pas de réalisatrice en lice pour la catégorie de la réalisation, ça fait réagir aussi. Pour les bonnes surprises, le film de Cédric Lapiche, encore sur la résilience d'une danseuse classique, troisième film le plus nommé, juste derrière le polar, La Nuit du Doubs, sur l'enquête d'un féminicide, deuxième film, et c'est étonnant, le plus nommé aussi. Bonne surprise cette fois pour Benoît Magimel, sacré meilleur acteur l'année dernière, de nouveau nommé dans cette catégorie pour le thriller à Tahiti, Pacifiction, 9 fois nominé lui aussi, comme encore. Benoît Magimel y campe un haut commissaire coincé entre une population très mécontente et la reprise d'essais nucléaires français dans ce territoire.
Moi, je ne suis pas dans les magouilles. Moi, j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. J'ai vu beaucoup de marins dans l'île, là, et j'ai pas tellement confiance en ma hiérarchie. Moi, j'ai le sentiment qu'on essaie de me mettre à l'écart.
Pacifiction qui figure aussi dans la catégorie meilleur film. Le palmarès, Marie, ce sera le 24 février à l'Olympia, à suivre en clair, en exclusivité et en direct sur Canal+, et aussi sur Europe 1 tout au long de la journée. À l'instant, on apprend que Riyad Satouf a remporté le Grand Prix au Festival de la BD d'Angoulême. Nommé pour les meilleurs points bourse, Claire Lemaître de boursier.com, et c'est une petite baisse à Paris.
Oui, rien de méchant, petite baisse, c'est vraiment symbolique, -0,1%. Pour le CAC 40, l'indice clôture à 7044 points. On a eu un mauvais signal de la part du géant américain Microsoft. Le groupe anticipe un ralentissement de sa croissance. Ça a refroidi les marchés à Wall Street, bien sûr, mais aussi en Europe. Léger repli donc pour Londres et Madrid, -0,2%, -0,1% pour Francfort, -0,7% pour Amsterdam et un petit -0,1% donc à Paris pour le CAC 40.
Merci Claire Lemaître.
Et merci Hélène Zellani. À tout à l'heure pour un nouveau journal, il sera 20h sur Europe 1. La météo, Valérie Darmon de retour, ça va glisser sur le nord du pays demain matin.
Et oui, prudence, hein. La nuit prochaine et demain matin, une perturbation traverse le nord-ouest de la France. Elle donne de la pluie près de la Manche, mais en s'enfonçant dans les terres, les précipitations se transforment en neige, neige faible hein, sur l'est des Hauts-de-France, le bassin parisien, la région centre, le Poitou-Charentes. Attention au verglas sur l'est des Hauts-de-France et sur les Ardennes. Sous un vent de nord sensible au fil des heures, le ciel va devenir plus changeant. Partagé entre éclaircies et passages nuageux, des côtes de la Manche jusqu'au nord de la Seine et jusqu'au nord des Pays de la Loire. Et l'ambiance qui va se radoucir aussi lentement. Du nord-est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, au sud-ouest, là, il neigeote ici ou là, notamment sur Midi-Pyrénées et aux abords des Pyrénées. On a une couche de neige fraîche de quelques centimètres qui va se déposer sur la montagne noire et sur les Corbières. Et puis autour de la Méditerranée, le soleil qui domine toujours.
Et côté température, Valérie ?
Alors, le matin, elles sont positives. Hein, sur les côtes, en Bretagne, près de la Manche, sur le reste du pays, le mercure affiche entre plus 1 et moins 3. Les maximales vont atteindre 9 à 14 sur le Languedoc, PACA et la Corse, 4 à 8 sur le Roussillon, en Aquitaine aussi, sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire, et il fera entre 1 et 5 sur le reste de la France.
C'est bien noté, merci Valérie Darmon. On vous retrouve tout à l'heure à 23h sur Europe 1 pour un nouveau point météo. Restez avec nous et n'oubliez pas le standard, le 39-21. Appelez-nous pour réagir, passer à l'antenne et évoquer ce nouveau tournant dans la guerre en Ukraine. L'Allemagne et les États-Unis ont décidé finalement d'envoyer des chars lourds à l'armée ukrainienne. Le général Vincent Desportes nous rejoint dans quelques instants. A tout de suite.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
Europe Soir,
Raphaël Delvolvé.
On ne compte plus les tournants dans la guerre en Ukraine. Nous assistons à un nouvel épisode important ce soir. Nouvelle montée en gamme du soutien militaire occidental avec des livraisons de chars lourds, des Léopard 2 allemands et des Abrams américains. De quoi laisser entendre que le conflit débuté il y a bientôt un an est loin d'être terminé. Nous en parlons avec le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à HEC et Sciences Po, auteur de « Devenez leader » chez Odile Jacob. Bonsoir général. Et j'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez intervenir en nous appelant au 39-21. Alors la présidence ukrainienne parle d'un apport déterminant pour la victoire finale ce soir. Ça va tout changer, ces chars lourds, général ?
Ça va tout changer s'ils arrivent en nombre suffisant. Pour que cette arrivée de chars marque un tournant, il faut qu'ils soient au nombre de 200 ou de 300 minimum, pour faire une véritable différence. Et donc, on verra bien, finalement, combien de chars seront livrés. Les chars peuvent servir à deux choses, à arrêter une offensive russe qui pourrait avoir lieu au printemps, ou bien permettre au printemps, justement, aux Ukrainiens de mener une offensive qui pourrait les amener jusqu'aux frontières de 1991, mais il en faut 200 ou 300.
Alors, pour le moment, on en est, si on cumule hein, les promesses faites par les Allemands et les Américains. Il y a aussi les Britanniques hein, qui vont envoyer des chars, ce sont des Challengers. On va en parler avec vous, Général. Si on cumule donc les chars lourds allemands et américains, on en est aux alentours d'une cinquantaine, donc bien loin des 300 demandés par Volodymyr Zelensky. Le soutien occidental, quel que soit le nombre de chars envoyés, change-t-il de nature ce soir ? D'un appui de résistance, passe-t-on à un soutien offensif, du moins contre-offensif, puisque vous parlez du printemps, les renseignements ukrainiens et occidentaux croient savoir que la Russie prépare à la faveur d'une météo plus clémente une nouvelle offensive.
Moi, je ne crois pas que ça change, si vous voulez. On donne de l'armement puissant, les Français ont donné les canons César, des années XRC, etc. Ça ne change pas fondamentalement. Seul qui puisse dire ça change, c'est Vladimir Poutine, en disant on a passé le seuil de l'intolérable. Mais en fait, comme cette évolution est quand même extrêmement progressive, ça force la pression sur la Russie, mais ça ne change pas. Ça changerait véritablement si brutalement on avait 300 ou 400 chars qui seraient vraiment ce que les Américains appelleraient « game changer ». Pour l'instant, on est dans une démonstration de soutien et c'est bien. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il faut absolument acculer la Russie à l'idée qu'ils ne peuvent plus gagner. C'est ça qui est important. Ça se fera dans leur tête, ça doit se faire aussi sur le terrain et ces chars vont contribuer à cette nouvelle psychologie russe qui leur dira « on peut gagner ».
Alors, au vu des tergiversations, hein, le mot est faible, des hésitations allemandes, on comprend, et d'après ce que vous nous dites également ce soir sur Europe 1, Général Desportes, que l'Occident reste sur une ligne de crête, ne veut pas aller trop loin dans son soutien, elle veut juste adresser un message. C'est pour ça que les Allemands ont autant hésité à envoyer ces fameux Léopard 2 au nombre de 14 ce soir.
Les Allemands ont hésité, on sait bien que la dernière fois les Allemands se sont trouvés en Ukraine, c'est plutôt vilain. Hein. C'était en 41 et en 42, et même en 43. Donc il y a ça. Et puis il y a le fait que les Allemands ne croient plus à l'article 5. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire ça tout seuls. Ils n'ont pas pensé que l'article 5 les protégeait de l'OTAN, notamment, les protégeait suffisamment. Donc ils ont attendu, finalement, que l'Amérique s'engage beaucoup plus que dans son engagement naturel à travers l'OTAN. Et quelque part, cette hésitation des Allemands montre une certaine faiblesse ou incrédulité des Européens vis-à-vis de cet article 5.
On va continuer à parler de ces chars lourds bientôt fournis par l'Occident à l'armée ukrainienne après une courte pause. A tout de suite sur Europe 1. Appelez-nous pour réagir au 39-21.
Europe Soir.
Raphaël Delvolvé.
Le standard d'Europe 1 est ouvert le 39-21. Si vous voulez passer à l'antenne, parler avec nous de ce nouvel épisode important dans le conflit ukrainien démarré il y a bientôt un an. Ce soir, l'Allemagne et les États-Unis annoncent fournir des chars lourds, une cinquantaine, à l'armée ukrainienne. Nous parlions avec le général Vincent Desportes, qui est toujours avec nous avant la pause, des hésitations allemandes. Il y a également la volte-face américaine, général. Il y a encore quelques jours, le Pentagone expliquait, le ministère américain de la Défense expliquait que c'était trop compliqué d'envoyer des Abrams, hein, c'est le nom des chars lourds américains, c'est trop compliqué pour des raisons logistiques, ça nécessite beaucoup de carburant, beaucoup d'entretien, beaucoup de manutention. Et là, ce soir, le président américain fait fi du Pentagone.
Oui, on voit bien que les hésitations des Américains, c'est des hésitations diplomatiques. Par contre, ce qui va être compliqué, quoi qu'il arrive, c'est que le parc de chars lourds modernes des Ukrainiens va comporter des chars américains, des chars allemands et des chars britanniques, et qu'ils vont se trouver assez rapidement face à un problème logistique très compliqué, un problème de maintien en condition. Et ceci est important, c'est-à-dire qu'ils ne pourront monter une véritable manœuvre blindée offensive que s'il y a suffisamment de chars dans chaque catégorie qui demandent des chaînes logistiques particulières. Et donc, il faudra que les uns et les autres poursuivent le don de chars, enfin le prêt de chars ou le don de chars, si on veut que cela ait vraiment une signification.
Alors, c'est assez intéressant aussi de voir aujourd'hui la réaction de la France. Paris salue la décision de l'Allemagne. Pour la France, Berlin suit le mouvement enclenché par la livraison de chars légers français, les fameux AMX. Malgré la déclaration d'Elisabeth Borne, la Première ministre aujourd'hui au Sénat, qui explique que rien n'est exclu, on peut comprendre via le communiqué français que Paris n'envisage pas en fait d'envoyer ces chars lourds, les fameux Leclerc. C'est inenvisageable, général ? Beaucoup de militaires, je le sais, ils sont réticents. Hein.
Ça n'est pas inenvisageable, mais c'est un geste politique et un pari stratégique. Parce que à cause des dégradations des budgets militaires depuis 25 ans, la France a très peu de chars, et très peu de chars en état de rouler. Les chars en état de rouler en France, c'est une centaine. Et si la France, par exemple, venait à donner une vingtaine de chars, qui au fond serait presque un ennui pour les Ukrainiens, pour des problèmes de logistique, la France, on peut le dire, n'aurait pratiquement plus de chars capables de faire la guerre pendant 2 ou 3 ans. Pourquoi ? Parce qu'avec ces 20 chars, il faudrait donner tout le lot de pièces détachées qui est très faible en France, tout le lot de munitions, etc. Donc c'est un pari politique, c'est un choix que peut faire le président de la République, mais qui est bien de dire « Ok, nous n'aurons pas à nous en servir dans les 2 ou 3 ans à venir ». C'est un pari que peut faire le président. Il est clair que les militaires y sont forcément un peu réticents.
Alors c'est toujours intéressant de se replonger il y a 11 mois au tout début du conflit hein, où il y avait beaucoup plus de prudence côté occidental. On ne voulait pas envoyer d'armes lourdes, surtout pas envoyer d'hommes, ça c'est encore le cas aujourd'hui. Mais on s'aperçoit que petit à petit, bien, on monte en gamme hein, dans notre soutien militaire et ça inquiète beaucoup de Français. On nous appelle au 39-21, Philippe est avec nous, bonsoir Philippe.
Oui, bonsoir.
Alors, vous pensez, si j'ai bien compris, hein, si je résume, hein, vous allez me dire si je me trompe, il faut soutenir l'Ukraine, mais ne pas aller trop loin.
Oui, alors, vous m'excuserez, hein, c'est la première fois que je passe à la radio, donc j'espère... Non, j'en ai pas, mais malgré tout, c'est pas un exercice facile. moi, je pense qu'il faut effectivement garder la mesure des choses. L'important, c'est d'essayer d'envisager ce qui se passera après. À mon sens, je pense que il ne faut pas mettre la Russie à genoux et il ne faut pas provoquer non plus une sorte d'union sacrée derrière un chef qui pourrait aboutir à des catastrophes. Et si effectivement l'envoi des chars est un signal que l'on donne aux Russes en leur disant bah, « Écoutez, on est capable de fournir l'effort et on continuera de soutenir l'Ukraine.
» Alors, la liaison est assez mauvaise, Philippe. On a compris ce que vous vouliez dire, hein, général. Hein, c'est ce que nous disions tout à l'heure.
Il faut que la France garde un pouvoir de négociation et garde une position d'arbitre.
Alors, c'est peut-être ça aussi qui est en jeu.
Ça me semble extrêmement important.
On a bien compris votre point de vue, Philippe. Merci beaucoup. Et félicitations, vous en êtes très bien sorti. Il n'y a eu aucun problème. Général Desportes, c'est un peu aussi ce qu'on peut comprendre avec ces réticences françaises à envoyer des chars lourds. On veut garder une marge de manœuvre d'un point de vue diplomatique.
Je crois que votre correspondant a parfaitement raison. C'est-à-dire qu'un des problèmes de la guerre aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il faut la conduire. Évidemment, il faut acculer la Russie à l'idée qu'elle ne peut plus gagner. Mais il faut également savoir jusqu'où on ne peut pas, il ne faut pas aller trop loin. Et votre correspondant a parfaitement raison de dire que l'effondrement de la Russie serait le plus mauvais service qu'on pourrait rendre à l'Ukraine et à l'Europe. Comme le disait Kissinger au mois de décembre dernier, l'effondrement de la Russie, c'est un trou noir, c'est un chaos sur 11 fuseaux horaires et un chaos équipé de 6000 têtes nucléaires. Donc on voit bien qu'en même temps qu'il faut acculer la Russie à la défaite, en même temps, il faut penser la paix. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne pense pas suffisamment à un projet qui soit acceptable pour la Russie et qui l'amène à dire « Ok, j'arrête la guerre ». N'oublions pas que la guerre n'a pas de sens en elle-même. Elle doit produire un système de paix meilleur que le précédent. Et je ne peux conduire la guerre correctement que si je sais ce que j'en attends. Et cette réflexion-là, à mon sens aujourd'hui, elle n'est pas assez aboutie. Elle n'a à peine commencé d'ailleurs.
Alors, il n'y a pour l'instant pas de marge de manœuvre pour la paix. On voit mal, en l'état actuel des choses, comment on pourrait entamer des négociations, Général Desportes. Le conflit va durer encore quelques mois.
Le conflit va durer peut-être des mois et peut-être des années. Mais l'exemple de la guerre de 14-18 est tout à fait intéressant dans cette affaire-là. Pourquoi est-ce que les Allemands, à la fin du mois d'octobre 1918, décident d'arrêter la guerre? D'une part, parce qu'ils ont compris, à cause de l'offensive de Foch, qu'ils sont condamnés à perdre cette guerre-là. Et donc, ils estiment inutile d'aller se battre jusqu'à Berlin. Et parce que, d'autre part, il y a quelque part en l'air le projet de paix du président Wilson, les 14 points, qui vont leur dire « Ok, on a une porte de sortie à peu près honorable. Il faut, la Russie devra sortir de ce conflit. Elle peut en sortir par une guerre nucléaire, ça n'est évidemment pas dans l'intérêt des Européens, ou bien on peut à un moment donné proposer un projet qui demeure possible pour la Russie. Il faut trouver une porte de sortie. La guerre monte aux extrêmes, c'est toujours comme ça. Il faut donc trouver un moyen, c'est pour ça que la diplomatie existe, un moyen de construire un projet qui permette de sortir de cette guerre une fois, c'est important, que la Russie aura été acculée à l'évidence qu'elle ne peut pas gagner.
Suzanne nous appelle au 39-21. Bonsoir Suzanne.
Bonsoir, après tout ce qu'il est dit, il m'est difficile d'en dire encore beaucoup de choses, mais je suis catastrophée de cette escalade. La Russie est un très grand pays, je ne la défends pas, l'Ukraine a aussi tous ses droits, mais tant qu'il faut partir quand même sur des accords, parce que j'estime qu'il faut mieux quand même, un mauvais accord plutôt qu'une guerre qui va continuer à faire des morts, des escalades, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Justement, moi j'ai connu la dernière guerre, j'étais enfant en 39, et ça me fait très peur.
Et on peut vous comprendre, chère Suzanne, merci de réagir ce soir sur Europe 1. Général Vincent Desportes, vous avez évoqué l'option nucléaire qui est sur la table de la Russie. Est-ce que on peut sérieusement y penser aujourd'hui? Une Russie acculée, ou plutôt un homme, Vladimir Poutine, acculé, sachant qu'il ne peut plus gagner la guerre et qui appuie sur le bouton?
C'est tout à fait possible. Et votre correspondante a parfaitement raison. La guerre est quelque chose de parfaitement déraisonnable, mais il faut la conduire avec raison. Et donc, il faut prendre de la hauteur par rapport au présent et arriver à penser l'avenir. Mais oui, depuis le 24 février dernier, cette guerre est conduite sous menace nucléaire. Et cette option, pour M. Poutine, est toujours ouverte. Et donc, au moment où il va pied, et j'espère qu'il perdra pied, il faut qu'il ait une autre solution justement que de se décider à tirer nucléaire, ce qui serait le pire, et c'est une menace qui est toujours possible, même si elle est insensée, mais elle est toujours ouverte.
Alors, il y a un point que je voulais aborder avec vous, parce que ces annonces aujourd'hui arrivent concomitamment avec un autre événement sur la scène politique ukrainienne. Le pouvoir a limogé un nombre important de hauts responsables impliqués dans une vaste affaire de corruption. Est-ce que c'est lié? Les Occidentaux, pour faire simple, ont-ils dit à Volodymyr Zelensky « Tu fais le ménage chez toi et tu auras tes chars ».
Bien sûr, je crois qu'ils l'ont dit, c'est effectivement insupportable de voir les Européens, les Américains faire des collectes.
Alors, la liaison est difficile ce soir avec vous, Général Desportes. Je vais peut-être... Vous m'entendez? Alors, on a perdu la liaison avec le Général Desportes. Eh bien écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, on va refermer ce chapitre consacré au conflit ukrainien. Je vous relance, chers auditeurs, ce numéro, le 3921, le standard d'Europe 1, si vous voulez intervenir sur l'autre sujet à suivre. Nous allons revenir bien sur le scandale Orpea. C'était il y a un an, rappelez-vous, avec la publication du livre de Victor Castanet, les Fossoyeurs. Un an après, le secteur s'est-il remis à l'endroit, s'est-il assaini? Nous en parlons avec Eric Fragona, il est directeur de l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Appelez-nous au 3921, à tout de suite.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Il y a un an, la déflagration dans le secteur des résidences pour seniors, couramment appelée EHPAD. Cette déflagration, c'est un livre, Les Fossoyeurs, prix Albert Londres. L'auteur Victor Castanet y révèle les pratiques du groupe Orpea, sa politique de maximisation des profits au détriment des résidents avec rationnement minimal des repas ou encore des soins d'hygiène. L'ouvrage est réédité aujourd'hui en version poche avec 10 nouveaux chapitres. Un an après le scandale, le milieu des EHPAD a-t-il fait son examen de conscience, mis fin à des pratiques très discutables moralement? En fait, la confiance est-elle rétablie? Nous sommes avec Eric Fragona, directeur de ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, un an après, le grand ménage a-t-il été fait?
Mais non, l'État n'a pas fait suffisamment pour qu'il y ait de véritables changements qui soient constatés sur le terrain. Et pourtant, aussi bien les personnes âgées, les familles et les professionnels sont quand même en droit d'attendre ces changements. Alors, l'État a fait beaucoup de choses, semble-t-il, concernant le groupe Orpea pour mettre fin effectivement à des malversations et à des cas de maltraitance. Mais ça, c'est très ciblé. Ça ne répond pas à la deuxième partie du livre de Victor Castanet, qui précise tout le problème systémique de l'ensemble des établissements et des services à domicile, car faute de temps, parce que l'État ne finance pas suffisamment de personnel. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes déçus au bout d'un an sur les avancées.
Eric Fragona, si j'ai bien compris, pour vous, le principal problème, c'est le recrutement du personnel?
Oui, bien entendu. C'est l'État et les départements qui financent les professionnels. Nous demandons depuis très longtemps le 8 pour 10 en établissement et financer le 30 € de l'heure pour les services à domicile. Et tous les rapports vont également et rejoignent cette position historique de l'ADEPA. Et force est de constater que malgré cela, il n'y a pas, l'État n'engage pas les financements, les 10 milliards nécessaires à l'atteinte de ses objectifs, et que du coup, pour les professionnels, c'est extrêmement compliqué à assurer leur mission. Donc nous sommes toujours dans l'attente de ratio minimal d'encadrement, et il nous faut effectivement plus de temps auprès des personnes âgées si on veut faire de la qualité.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème qui est en fait surtout moral? Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui, après le livre de Victor Castanet, mais pas seulement, qu'on puisse se faire de l'argent? Je vais parler assez crûment, mais qu'il soit beaucoup question d'argent dans le milieu des EHPAD, des résidences pour seniors.
Mais il faut savoir que les groupes commerciaux représentent finalement que 10% de l'aide aux personnes âgées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 90%. Sur les 10%, l'État travaille justement, a sorti une panoplie de textes pour réguler cette situation. Voilà ce qu'a fait l'État pendant un an. Moi, j'aimerais que l'État se saisisse de la question des 90% pour qu'on puisse, en France, accompagner dignement les personnes âgées. On a un retard phénoménal par rapport à nos voisins européens. Je me souviens que Dominique de Villepin demandait déjà les 8 pour 10 en 2006. Donc, vous voyez, il faut vraiment que l'État réagisse pour qu'on puisse pour qu'on puisse tourner la page.
Alors, Éric Fagonet, est-ce que vous pouvez préciser ? Alors, je rappelle que vous êtes directeur de ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est que le 8 sur 10 ? Le 8 pour 10, pardon.
Mais c'est 8 professionnels pour 10 résidents. Ça, c'est une norme, c'est un ratio minimal d'encadrement.
Comme et aujourd'hui, on en est à combien ?
On est à 6 pour 10. On est à 6 pour 10. Et si je prends par exemple nos voisins européens, beaucoup sont déjà à 10 pour 10.
Et ça donne des situations de détresse. Notre journaliste Nina Droff est allée recueillir le témoignage de Christelle, dont la maman est en EHPAD public.
La toilette, c'est de l'expéditif. Pas forcément coiffé, les ongles sales, il y a des rationnements de nourriture aussi. On va donner qu'un seul verre de jus de fruits. Et moi, quand j'arrive, je dis, j'ai faim, donne-moi une banane. Ça continue, quoi. Ça reste pareil.
Voilà Christelle, dont la maman est en EHPAD public. Témoignage recueilli par notre journaliste Nina Droff. Pour réagir, je rappelle le numéro, le 3921, le standard d'Europe 1. Éric Fragona, voilà, ça c'est la conséquence du 6 pour 10.
Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça, ça corrobore mes propos. Disons qu'on voit et on comprend la détresse de cette personne. C'est insoutenable pour les familles, c'est insoutenable aussi pour les professionnels qui savent qu'ils ne sont pas en capacité de donner suffisamment d'attention et de temps aux personnes âgées qui le méritent pourtant. Et on arrive à des situations de détresse et donc tout ça est insoutenable. Il faut que les pouvoirs publics se saisissent de la question, mais très rapidement parce que c'est-à-dire que le constat, il est fait par tous. Il y a eu 10 rapports qui ont été faits suite aux grèves de 2018. On nous avait promis une grande loi autonomie qui n'est pas venue. Alors je salue par contre que des parlementaires de la majorité vont lancer une proposition de loi, mais qui malheureusement ne pourra pas avoir l'impact financier attendu. Parce que c'est porté par des parlementaires. Donc il faut aujourd'hui effectivement qu'on puisse avoir plus de temps et plus de temps, c'est engager les milliards nécessaires.
À vous entendre, on a l'impression que le sujet est régulièrement mis sous le tapis. C'est d'ailleurs ce que révèle en partie la nouvelle version des Fossoyeurs. Hein. Le livre de Victor Castanet est réédité aujourd'hui en poche avec 10 nouveaux chapitres. On apprend notamment, alors au moment de la sortie de la première édition du premier tome, nous étions en pleine campagne présidentielle, que l'entourage du président a tout fait pour que ça éclabousse le moins possible le candidat Macron. C'est un peu à l'image de ce que font les pouvoirs publics aujourd'hui, si j'ai bien compris, Éric Fragona.
C'est ce qu'on comprend, parce que même la défenseur des droits l'a encore récemment précisé qu'il fallait ce ratio minimal d'encadrement. Les Fossoyeurs, et je salue le travail qui a été fait par Victor Castanet, démontrent très bien cette solitude des professionnels, notamment la nuit. Quand il y a un ou deux professionnels la nuit pour s'occuper d'une centaine de résidents, c'est impossible de faire un travail de qualité. Donc tout le monde le sait aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est que la société française s'en saisit, puisque tout le monde s'est ému finalement des révélations du livre de Victor Castanet. Maintenant, on espère que ça va déboucher sur des décisions, et des décisions au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire au niveau d'Emmanuel Macron ou d'Elisabeth Borne.
Voilà, et puis un an après la publication des Fossoyeurs, hein, on apprend dans le journal Le Parisien, daté d'aujourd'hui, qu'il y a des plaintes déposées contre le numéro 3 du secteur Domus Vie. Vous parliez des problèmes dans les EHPAD la nuit, hein, où souvent, en fait, il n'y a pas de personnel. On apprend de la bouche encore d'un enfant, d'une résidente, que les résidents sont gardés par une télévision. Il n'y a personne. Ça ne vous surprend pas, ce genre de témoignage, Éric Fragona?
Ça ne me surprend pas, mais comme tout le monde, je suis choqué qu'on en arrive à ces pratiques, puisque nous, directeurs, quand on s'est engagé dans ce métier, comme beaucoup de professionnels, c'était quand même avec un engagement humain. Et donc, arriver à des situations telles, c'est que quand on ne met pas les moyens financiers, on se retrouve dans des situations insoutenables. Et après, on voit bien que ça arrive à des débordements. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Nous allons arriver à d'autres scandales. D'autres scandales seront révélés de la sorte.
Mais peut-être avez-vous des témoignages accablants à nous faire part, Éric Fragona?
Mais écoutez, c'est très régulièrement que nous avons des témoignages de familles qui constatent effectivement que les personnes n'ont pas suffisamment d'attention, ne sont pas suffisamment bien accompagnées, leur font part de leur détresse et de leur solitude, parce que c'est la solitude aussi qui parce que qui frappe aussi ces personnes âgées fragilisées. Il y a leur état de santé physique. Alors l'État essaie tant bien que mal de financer des postes d'aide-soignants, des postes des postes d'infirmiers, mais ils ne se soucient pas du tout, quasiment, de leur santé psychique. Il n'y a presque pas de temps de psychologue, pas de temps d'animateur ou très peu. On est sur un temps d'animateur et un demi-temps de psychologue dans un établissement de taille moyenne. Donc c'est totalement inacceptable.
Un système qui se déshumanise alors que pourtant l'humain est censé être au cœur du métier. Alors il nous reste 2 minutes, nous allons les consacrer aux auditeurs d'Europe 1. Huguette nous appelle au 39-21. Bonsoir Huguette.
Bonsoir monsieur. Écoutez, j'entendais le monsieur qui est là, qui parle des EHPAD, il manque de personnel, je comprends bien, mais les personnes qui tapent les personnes âgées, les infirmiers, infirmières, ça n'est pas normal, c'est dans eux. Ils auraient été ailleurs, infirmières ou pas, ils auraient fait la même chose, ils auraient tapé ou maltraité, parce que c'est dans eux la plupart. Parce qu'on ne maltraite pas à ce point-là, taper des personnes âgées, c'est pas possible. Moi j'ai 94 ans, et ben j'ai pas du tout envie d'aller dans un EHPAD parce que tant que je serai valide, voilà.
Alors, je comprends pas bien ce que vous nous expliquez, Huguette.
Le monsieur dit qu'il manque de personnel. Ça, bien sûr, tout le monde, partout, c'est pareil. Oui. Mais je trouve que quand il dit que les personnes, c'est triste, c'est malheureux, mais les personnes qui battent les personnes âgées, ça n'est pas normal. Ça vient pas du gouvernement, du manque d'absence et tout ça. Moi, je trouve.
Là, vous abordez le sujet de la maltraitance, Huguette.
Voilà, oui, tout à fait.
Alors, Éric Fragonard réagit. Il vous reste 30 secondes, monsieur Fragonard.
Eh bien, Huguette a raison de signaler ces cas de maltraitance. Alors, pour ces personnes, évidemment, il faut les condamner. Il n'y a même pas de sujet. C'est inacceptable. Mais ça représente que peut-être 1 ou 2% de personnes, comme on pourrait l'avoir dans tout métier, des fous, on va dire. Par contre, la maltraitance, et là, la maltraitance est dans la loi. La maltraitance, c'est aussi le fait de ne pas aider les gens parce qu'on n'est pas en capacité de les aider. Et donc, aujourd'hui, le fait que l'État ne finance pas suffisamment de professionnels, on n'est pas en capacité d'aider les gens et par voie de conséquent, nous sommes maltraitants.
Et votre message est passé ce soir sur Europe 1. Merci Huguette de nous avoir appelé au 3921. Merci à vous Éric Fragonard, directeur de ADPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. Vous étiez notre invité un an, jour pour jour, après la publication des Fossoyeurs.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.